un musée, un drôle de musée, où la visite se fait tout nu. Vous avez bien entendu, il faut tomber les vêtements pour y aller.
À tout de suite.
Ici, ICI. Une radio, une appli, connectée à notre région.
Très bel été avec votre radio ici, il est 13h. Ma France, Emeline Ferry.
Ici, Ma France.
Bonjour et bienvenue dans Ma France. Drapeau rouge dans les Bouches-du-Rhône, certains massifs forestiers sont interdits d'accès à cause du risque incendie, mais des promeneurs imprudents s'y aventurent quand même. On va vous expliquer cette mesure en vigueur depuis le début du mois, mais passée sous les radars, mesure pour lutter contre les loyers impayés. La quatrième étape du Tour de France Femmes avec la favorite Demi Vollering, victime d'une chute hier. Elle sera bien au départ tout à l'heure pour la quatrième étape. Dans le journal des régions, nous irons dans le Nord pour vous raconter l'histoire de Louison, père de famille d'origine congolaise qui vit en France depuis 17 ans. Parfaitement intégré, il risque l'expulsion. Nous irons sur la Côte d'Azur. Les commerçants, les restaurateurs s'interrogent. Mais où sont passés les touristes? Et puis, vous découvrirez un musée étonnant dans les Pyrénées-Orientales. Musée à visiter tout nu. Et oui, juste vous face aux œuvres d'art. Il n'y a plus aucun département en rouge sur la carte de la météo des forêts, mais le risque est toujours très élevé. Le vent, la végétation très sèche et c'est un brasier qui se propage très vite. Exemple hier dans l'Hérault, 350 hectares parcourus par les flammes, 11 hectares dans les Bouches-du-Rhône, où 13 massifs forestiers sont toujours interdits d'accès dans le département pour ne pas gêner les secours en cas d'intervention. Et pourtant, certains randonneurs prennent le risque d'aller s'y promener, comme ici au Toulonnais, près d'Aix-en-Provence. C'est un reportage d'Anne-Livia Tolinki.
Oui, ces trois copines l'ont vu, le grand drapeau rouge à l'entrée du chemin, accès massif interdit, mais...
De toute façon, on va pas très loin, on va juste voir le point de la cascade, et après on redescend, donc je crois qu'on est à 15 minutes. C'est une toute petite randonnée.
Et quand on leur signale que c'est quand même interdit...
Mais je veux dire, le fait qu'on soit là, c'est genre le moment idéal pour aller faire ce genre de choses, parce qu'en fait, quand il fait chaud et qu'il n'y a pas de vent, bah, il fait trop chaud, du coup on n'y va pas. Il vaut mieux essayer de profiter jusqu'au bout.
Je pense que s'il y avait un gros danger potentiel... Il y aurait plus des personnes en physique pour nous dire que c'est interdit de monter, comme il peut y avoir dans les Calanques à Marseille ou à Cassis.
Personne, en effet, ne bloque cet accès à la Sainte-Victoire, mais les panneaux sur les arbres sont explicites. Interdiction, danger, amende de 135 euros. La famille de Geoffrey passe devant sans s'arrêter.
C'est quoi l'amende? 135 euros. Si on fait un panier commun, peut-être qu'on peut diviser l'amende. On va faire attention. A priori, on n'a pas de vocation à nous allumer un feu.
Ce n'est pas le sujet, répète le maire du Toulonnais, Vincent Longhi. En cas de feu, la simple présence d'un promeneur complique tout pour les secours.
Ils vont devoir perdre du temps pour le mettre en sécurité. Et ça peut aussi empêcher des moyens aériens, des largages de se faire. Donc c'est hyper important. Risque rouge, pas d'entrée dans les massifs.
Ce massif qui repasse en vert aujourd'hui, même si la vigilance reste évidemment de mise. Une personne toujours introuvable après l'incendie meurtrier dans un gîte en Charente, dans la commune de Montmoreau. On pense que son corps se trouve toujours sur les décombres, indique le sous-préfet. L'incendie a touché hier un gîte qui hébergeait des personnes en situation de handicap. 3 résidents sont morts, la propriétaire du gîte également. Face à la famine qui sévit à Gaza, en plein conflit avec Israël, la France annonce qu'elle va larguer de l'aide humanitaire dans les prochains jours sur l'enclave palestinienne. Pas de vacances pour le chômage. Le ministère du Travail public publie les chiffres pour le deuxième trimestre. 3,2 millions de personnes sans emploi, sans aucune activité. Sur le papier, c'est une baisse de 5,7% par rapport au trimestre précédent. Mais c'est trompeur parce qu'il y a eu des changements dans le mode de calcul. Résultat, en fait, ça augmente plus de 0,2% sur un trimestre, plus 1,1% sur 6 mois. Elle est entrée en vigueur au début du mois, mais elle est passée un peu inaperçue. La procédure pour lutter contre les loyers impayés s'accélère. Plus besoin désormais de passer devant un juge, ce qui pouvait prendre plusieurs années. Il suffit maintenant de faire constater la dette par un juge et de missionner un huissier qui envoie lui-même un courrier au locataire. Un mois plus tard, si rien n'a changé, alors l'argent peut être prélevé directement sur son salaire. Et c'est une mesure qui fait beaucoup réagir, Sophia Berada.
D'après Sylvain Grattalou, le président de l'Union des propriétaires immobiliers, les impayés, ça a longtemps été le cauchemar des bailleurs, synonyme d'une procédure longue,
coûteuse et puis très aléatoire.
Ce qui a pu mettre des propriétaires en difficulté pour rembourser un prêt, par exemple, le nouveau système apporte une garantie.
Le propriétaire n'aura pas à attendre, c'est-à-dire que ça invitera les locataires à être beaucoup plus vigilants parce que s'il y a un peu de retard dans le loyer, ils savent qu'ils peuvent se voir saisir sur leur propre salaire le montant du loyer.
Mais ce dispositif, la Conférence nationale du logement le dénonce. Son président, Eddy Jacquemart, y voit une attaque contre les plus fragiles.
Le locataire qui ne paye pas son loyer, c'est parce qu'il a eu un accident de la vie, de perte d'un emploi, de perte d'un conjoint. Ils n'ont déjà pas grand-chose et on va encore leur ponctionner une partie de leurs ressources.
Car le loyer pourra être prélevé sur salaire, mais aussi sur les allocations chômage ou les pensions de retraite. Eddy Jacquemart regrette aussi l'absence de contradictoire que permettait avant le passage devant un juge.
Il pouvait prendre des décisions plus souples. On est dans de l'humain, en fait. On n'est pas dans des dossiers.
Il existe néanmoins un recours. Les locataires disposent d'un mois pour contester la saisie du loyer sur leur salaire.
Vous avez sûrement vu ce slogan passer sur les réseaux sociaux. Bloquons tout. Un appel à paralyser le pays le 10 septembre. Voilà qui rappelle le mouvement des Gilets jaunes. Cette fois, il s'agit de protester contre le plan d'économie de François Bayrou, 44 milliards d'euros. La suppression envisagée de 2 jours fériés provoque la colère et ce ras-le-bol initié par des internautes. Alors certains se sont rencontrés hier soir dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris. Marc Bertrand a assisté à leur réunion.
Une cinquantaine de personnes est assise en rond sur la pelouse. Il y a des jeunes avec des keffiyehs, quelques retraités. Certains ont des lunettes de soleil pour passer incognito.
Est-ce que anti-guerre, ça revenait dans tous les groupes ? Est-ce qu'il y a un consensus sur anti-guerre ?
Ils sont tous inscrits sur un groupe Telegram. Pour répondre à l'appel du 10 septembre, c'est la première fois qu'ils se voient.
Okay, donc anti-raciste, anti-guerre, on est OK là-dessus à peu près.
Il y a des militants de la France insoumise, des gilets jaunes, comme ce grand homme grisonnant qui donne le mot d'ordre contre le plan d'austérité Bayrou.
Les gens qui sont là, ils peuvent dire, nous, c'est ça qui nous en colère. D'autres gens vont ramener d'autres trucs. Qu'est-ce qui s'est passé sur les gilets jaunes ? Ils sont partis sur un truc pétrolier de pouvoir remplir son réservoir pour aller bosser et amener les gamins à l'école. Et puis très vite, après, tout le monde arrivait avec ses problèmes et s'est rendu compte qu'on avait à peu près les mêmes.
Certains veulent tirer le signal d'alarme du métro au même moment dans tout Paris. D'autres évoquent le blocage des usines d'armement, des sabotages. À la sortie, un jeune homme repart dans son coin. Il est déçu.
Je vois que c'est beaucoup de gens qui poussaient l'idée de antiracisme, antifascisme, féministe. Je trouve que c'est très inutile, on est là pour combattre Bayrou. Enfin, moi je suis de droite, je le cache même pas. On est parti comme un mouvement qui est anti-parti, en fait, en dehors de la droite, en dehors de la gauche. Et en fait, on découvre qu'ils sont très très gauche.
Les autres ont prévu de se rassembler à nouveau à la fin du mois, mais lui, il ne reviendra pas.
Allons faire un tour sur les routes de la Grande Boucle. Le Tour de France Femmes, marqué hier par la chute de la favorite d'Amy Vollering. Ce matin, on était sans nouvelles de la coureuse néerlandaise et on vient de l'apprendre. Elle sera bien au départ tout à l'heure, Hélène Fromanti.
Oui, son équipe, la FDJ Suez, a communiqué il y a une heure maintenant. Selon la formation française, les derniers examens médicaux réalisés ce matin permettent d'exclure tout risque de commotion et la coureuse s'est dite déterminée à rouler aujourd'hui. Une bonne nouvelle donc pour la FDJ Suez qui va arriver ce soir sur ses terres à Poitiers et qui avait à cœur d'avoir une formation complète pour cette étape à domicile. Et puis une bonne nouvelle surtout car l'équipe a recruté Demi Vollering cette année avec l'espoir de remporter le Tour de France grâce à elle. Mais il faut rester prudent car le corps de la favorite a tout de même été touché. On nous parlait hier de plusieurs abrasions au dos, aux jambes et ce genre de chute, eh bien, laisse toujours des séquelles, d'autant que le plus dur reste à venir avec la route qui va commencer à s'élever dès demain et les étapes de montagne qui arrivent en fin de semaine. Alors la FDJ Suez assure qu'elle va rester vigilante sur l'état de santé de Vollering et on peut imaginer que la formation envisage déjà un autre scénario pour la suite en cas d'abandon de la néerlandaise. Dans les jours prochains, on pourrait voir une Evita Music ou une Juliette Labousse endosser le rôle de leader de l'équipe française.
Hélène Fromanti, on vous retrouvera tout au long de l'après-midi pour nous faire vivre cette quatrième étape qui partira à 14h25 de Saumur, 131 km de plat jusqu'à Poitiers. Le maillot jaune est sur les épaules de Marianne Vos. La Marseillaise va-t-elle à nouveau retentir près des bassins à Singapour ? De nouvelles chances de médailles françaises peut-être aux Mondiaux de natation après l'or décroché hier par Maxime Grousset. Dans quelques minutes, Anastasia Kirpichnikova va concourir sur le 1500 mètres nage libre. Ensuite, on encourage Marianne Marie-Ambre Molu et Pauline Maheu sur le 100 mètres d'eau à 13h48 et 10 minutes plus tard, Johan Ndoye-Brouard sur le 100 mètres d'eau. Alors, je ne sais pas quelle est la température dans les bassins à Singapour, mais dans la mer, au Gros du Roi, dans le Gard, les vacanciers ont froid en ce moment, 20 degrés dans l'eau de la Méditerranée. Alors, est-ce qu'on se trempe les orteils ou est-ce qu'on se baigne ?
Elle est archi froide. Bah, j'y suis pas allée pour rien, mais mon fils a essayé les ressorties, il retente une deuxième fois. Là.
On s'en fiche complètement, elle est très bonne.
Oui, je la trouve froide. Je suis pas trop mer, je préfère la piscine.
Bon, on s'en rend pas compte, mais enfin, elle est un peu plus fraîche, oui. Plus fraîche que la semaine dernière, mais c'est beaucoup plus agréable.
Il faut pas venir au Gros du Roi. Où ça nous convient, le lac à Neuchâtel est beaucoup plus froid.
Bah, l'eau, elle est froide et chaude, et avec le vent, des fois, ça fait un peu mal.
Je m'en fiche, je me baigne pas trop dans la mer.
Pour les enfants, moyen, parce que là, il y a beaucoup de vent. Donc, une fois qu'ils sortent, ils ont vraiment très froid.
Et ça ne devrait pas s'arranger tout de suite. Hein. Le vent reste sur le littoral pendant encore 10 jours.
Ici, ma France.
À 13h10, dans le journal des régions, l'histoire émouvante de Louison Kindula. Cet homme de 47 ans, originaire du Congo, vit en France depuis 2008. C'est dans le Nord qu'il a construit sa vie, titulaire d'un bac plus 5 en ingénierie. Il travaille dans une entreprise de Neuville-en-Ferrin depuis 12 ans. Louison Kindula est marié avec une Française avec qui il a 3 enfants français. Mais depuis ce matin, il n'a plus aucun droit. Son titre de séjour est expiré et le récépissé qui prouve que sa démarche a été renouvelée vient également d'expirer. Ras-le-bol et angoisse pour Louison Kindula qui raconte son histoire au micro ici Nord de Gabin Grulé.
Ça fait plus d'un an que Louison demande le renouvellement de son titre de séjour.
Il y a du ras-le-bol, des insomnies, je fais des nuits blanches parce que t'as peur du lendemain parce que tu ne connais pas ton sort.
Quand on lui parle de l'expiration de son récépissé, ses yeux deviennent rouges.
C'est la tristesse. Jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours aucun retour de la part de la préfecture. Et là, mon employeur était dans l'obligation de me suspendre les contrats et je serai obligé de vivre sans ressources.
Louison n'est pas licencié mais a déjà perdu des mois de salaire entre chaque demande de récépissé.
J'accumulais en fait des retards des loyers parce que je m'en sortais pas. Donc mon inquiétude est non seulement à mon niveau mais par rapport à la famille que je gère et tant que père. Ça met tout le monde dans la désolation complète.
Le quarantenaire met même des alarmes pour lui rappeler de faire les demandes plusieurs mois à l'avance.
C'est très très pénible.
Mais il n'est pas le seul, selon Brahim Douaouda, secrétaire de l'Union locale CGT de Tourcoing.
On a 2-3 personnes à la semaine, hein. C'est avec le même problème et je pense qu'il y a la fracture numérique, donc le manque d'accueil au sein de la préfecture, le manque de moyens. Des fois, quand on passe devant les préfectures, on voit des files d'attente comme pas possible. C'est pas normal.
La préfecture, elle reconnaît des retards l'an dernier, mais assure que désormais tout est fait pour réduire le temps d'attente.
Et la préfecture qui assure aussi que l'un de ses objectifs prioritaires est d'éviter toute rupture de droit. Dans le sud de la France, certains commerçants s'interrogent, mais où sont passés les touristes sur la Côte d'Azur? La fréquentation est en baisse au mois de juillet par rapport aux saisons précédentes. C'est le cas à Nice et c'est pareil dans la commune de Vence. Il y a eu du monde pour le Festival des Nuits du Sud, mais depuis 10 jours, les commerçants font la grimace, Maxine Hernandez.
Dans les rues de la vieille ville, en ce lundi midi, on ne croise pas grand monde et ça se ressent dans les restaurants comme celui d'Yves chez Luigi.
Ça fait un peu plus de 20 ans que je suis ici, donc dès juillet, août, j'en ai fait. Les soirées, c'est tourné 100-120 couverts soir. Première année où je fais 3 couverts en plein mois de juillet. C'est plus que compliqué, c'est très dur.
Un peu plus loin, la terrasse de Dominique est quasiment vide. Elle est la gérante d'une crêperie.
Le ticket moyen est en baisse puisque les clients prennent surtout des crêpes sucrées et plus des crêpes salées. Je perds 6 euros de ticket moyen par personne. Donc je pourrais le rattraper sur le volume, mais comme il n'y a pas de clients, forcément, le ticket moyen reste en berne.
Constat partagé aussi par les touristes croisés dans les petites ruelles.
On est un peu déçus pour ça, on pensait que ce serait plus vivant, mais visiblement, lundi, tout est fermé.
C'est triste, ouais, ça fait triste. On ne se croirait pas, fin juillet.
Bah oui, on est tout seul, on est lundi, on a tout seul, ouais, c'est vrai que c'est étonnant.
Certains ne voient pas la différence par rapport à la saison précédente. Diego, le gérant du restaurant La Cassolette, nous montre son carnet de réservation.
Pour midi, on attend en général beaucoup de passages, mais si je regarde ce soir et demain soir, oui, je suis complet sur les 2 jours qui arrivent. Ouais.
Tout le monde ne vit pas cette saison de la même façon, mais tous sont d'accord pour dire que touriste ou pas, le ticket ou panier moyen est en baisse par rapport aux autres années.
Et l'Office de tourisme de Vence confirme cette tendance à notre reporter de Ici Azur. Alors voilà pourquoi pas une idée qui peut attirer du monde dans les Pyrénées-Orientales à Bellesta. Le musée de la préhistoire a eu une drôle d'idée pour faire venir les curieux. Il propose des créneaux naturistes. On tombe la chemise, le pantalon et on profite de la visite avec Simon Colboc.
et après l'entrée, c'est comme à la piscine, il y a le vestiaire.
Voilà, avec un rideau, avec porte-manteau.
Tarek Kouteni, le directeur.
Pour les téléphones, voilà, on a mis des caisses ici, effectivement.
Francis est venu spécialement de Béziers, 1h30 de route.
Moi, je suis naturiste depuis 30 ou 40 ans. Mais jamais dans un musée. C'est la première fois que je voyais que c'était possible. Je trouve que je n'ai pas dénoté, puisque les hommes préhistoriques vivent nus également.
Bernard, lui, vient de Toreil. Il est moins convaincu.
Habillé ou pas habillé, pour moi, je n'ai pas trouvé de différence.
Par rapport quand vous êtes sur une plage.
Et de sentir le vent, le soleil, l'eau. On ne voit que des corps, alors qu'ici, on ne voit que des murs et des vitrines. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde.
Oui, seulement 2 visiteurs mardi dernier. Mais l'idée du directeur, Tarek Kouteni, c'est aussi de faire parler du musée.
Ce musée, il y a plein de Français qui ne le connaissent pas. Quand ils viennent, ils ne pensaient pas que c'est aussi intéressant, aussi grand, aussi joli, aussi l'architecture.
L'an dernier, le musée de Bélestat a accueilli 6500 visiteurs. C'est 2 fois moins qu'il y a 20 ans. C'est aussi 10 fois moins que l'autre musée de la préhistoire du département, celui de Totavel.
Si vous êtes dans le coin pendant vos vacances, que vous voulez y aller, la visite naturiste du musée de Bélestat tous les mardis soirs de 19h à 21h. Ma France, c'est terminé. Il est 13h15. La journée continue à l'écoute de votre radio, ici, avec tout de suite les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare que vous allez écouter. Mais d'abord, un petit peu de musique. Adèle, Set Fire to the Rain.
Pendant tout l'été, sur la route de vos vacances, il y a forcément une radio ici pour vous accompagner. L'infotrafic au plus proche de vous. L'agenda de votre été, avec tous les bons plans, baignades, festivals, activités en famille ou en solo. Comment rester en forme? Comment occuper les enfants? Comment profiter des petits plaisirs de l'été? Écoutez votre radio locale ici. Ici, actu locale, musique et bonne humeur. Même en été.
Ici Touraine. Dès votre réveil,
actu local, musique et bonne humeur.
To stand in your arms. Vous passez l'après-midi avec Ici Touraine et on est ravis de vous accompagner au programme Actu Local, Musique et Bonne Humeur. Et maintenant, place à une histoire incroyable. Tout l'été, votre radio ici vous fait découvrir le podcast Les Histoires Extraordinaires de Pierre Belmar. Nous avez confié, qui est désormais réuni dans un podcast. Aujourd'hui, il nous raconte avec beaucoup d'imagination l'histoire d'un jeune artiste à qui le destin va soudain redonner goût à la vie.
Un podcast Ici.
Le 24 décembre 1997, Thomas Helms, un jeune homme de 26 ans, arpentait sans but les rues de New York. Il était arrivé voilà une semaine de Mountain View à Hawaï. Il avait décidé de quitter la communauté d'artistes dans laquelle il vivait alors pour tenter sa chance dans la Grande Pomme. Mais en ce jour de fête, sa solitude lui pesait bien lourdement et Thomas n'était plus trop sûr de ses choix. Alors que la plupart des familles new-yorkaises s'apprêtaient à passer le réveillon de Noël dans la chaleur de leur foyer, Thomas, lui, n'avait personne avec qui partager un repas, un sourire, un geste, un mot même. Le contraste entre sa condition et celle de la plupart des habitants de New York lui parut alors trop saisissant. Depuis son arrivée, Thomas Helms ne s'était lié avec personne. Pour assurer le quotidien, il avait bien dû se débrouiller. Il dormait donc dans le métro et mangeait seulement quand il le pouvait, c'est-à-dire pas assez souvent. Alors ce jour-là, Thomas prit une décision. Il allait en finir avec une vie de misère. Personne, très certainement, ne le remarquerait. Il se dirigea d'un pas soudainement plus décidé vers le quartier de Manhattan, s'arrêta un instant au pied de l'Empire State Building et pénétra dans l'édifice. Après avoir passé plusieurs heures à faire les 100 pas dans le hall de l'immeuble, Thomas acheta finalement un ticket d'admission à $1,75 pour monter jusqu'au sommet du mythique gratte-ciel. Il prit l'ascenseur et quelques minutes plus tard se retrouva au 86e étage sur le pont d'observation. Profitant d'un moment d'inattention des vigiles, Thomas enjambait la balustrade qui courait le long de l'immeuble. Il se tint un moment là, debout, à quelques mètres du vide. Il fit une dernière prière, respira un grand coup, ferma les yeux et s'élança dans les airs, près de 320 mètres au-dessus du sol. À cette hauteur, autant dire que les chances de survie sont nulles. Une demi-heure plus tard, pourtant, Thomas se réveille sur le rebord d'une fenêtre dans un environnement balayé par les vents. Il se trouve en fait toujours au sommet de l'Empire State Building. Les vêtements lacérés, le visage en sang, le jeune miraculé reste interdit un instant avant de se rendre compte que sa chute n'avait pas excédé un étage. À peine avait-il sauté que la force du vent l'avait en effet ramené brutalement contre l'immeuble, le plaquant contre le béton comme une vulgaire feuille. Tapis sur le rebord de la fenêtre, une mince bande d'à peine 90 cm de largeur au 85e étage, Thomas comprend maintenant que le moindre tressaillement de son corps, la moindre hésitation, pourront décider de son sort en une seconde. À moins qu'un coup de vent trop violent ne le précipite sans sommation contre le sol. Et s'il s'agissait d'une nouvelle chance? Après avoir passé 30 minutes suspendu entre la vie et la mort, à cette hauteur vertigineuse, Thomas sait enfin de quel côté son cœur balance. Il parvient à ouvrir la fenêtre contre laquelle il a atterri et se glisse à l'intérieur de l'immeuble. Il se retrouve alors dans le studio d'une télévision locale, la WNBC TV. La télévision est en train d'émettre et un ingénieur, William Steckman, s'assure que tout fonctionne quand quelqu'un lui tape soudainement sur l'épaule. William Steckman n'a pas vu arriver Thomas derrière lui. Il ne cache pas son étonnement devant cet homme, portant un blouson de ski, l'air hagard et le visage en sang. « Mais comment êtes-vous entré ici ?» lui demande-t-il. « Par la fenêtre !» répond tout naturellement le jeune homme. À l'aide d'un autre technicien, William fait asseoir Thomas, apparemment encore sous le choc. Il le fait asseoir sur une chaise. Nous avons essayé de lui parler, mais il ne faisait que regarder le sol. « Il ne voulait pas ouvrir la bouche, » se souvient William. « Alors j'ai appelé la police. » Thomas a ensuite été pris en charge à l'hôpital de Bellevue, où les médecins ont constaté qu'il ne souffrait que de légères égratignures. Une fois rassuré sur l'état de santé de William, les responsables de la chaîne, qui avaient suivi toute l'histoire, s'empressèrent de la divulguer sur leur antenne. L'épopée de l'artiste sans le sou fit rapidement le tour des médias. William donna même une interview dans laquelle il expliquait qu'il avait failli commettre une nouvelle tentative de suicide très peu de temps après sa chute manquée. Le jeune artiste désespéré reçut alors des dizaines de messages de familles new-yorkaises qui l'invitaient à passer les fêtes de fin d'année dans leur domicile. Que devint-il ? Personne ne le sait. Mais ce qui est sûr, c'est que l'on ne revit jamais cet homme sur le pont d'observation de l'Empire State Building.
Retrouvez les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare sur le site ici.fr.
Jolie, jeune mariée, lune de miel à peine, commencez. Méfiez-vous des voyageurs, voyez Karine Redinger.
Karine Redinger, j'ai reçu votre lettre à fleurs. Vous devez être endormie, rêveuse de choses qui sont loin de moi peut-être. Alors c'est pas bien. Karine Redinger, y a un morceau caché de mon cœur qui est resté quelque part sur un bateau vapeur. Vous étiez mariés depuis 2 heures, vous laissiez le vent montrer vos jambes en douceur, et vous m'aviez remarqué parmi les voyageurs. Karine Redinger, arrêtez de m'envoyer des fleurs. J'ai une femme à Paris et vous, un gentil mari. Cessons la scène musicale, comédie. Votre lune de miel au fil de l'eau, vous veniez le matin très tôt et vive l'amour en bateau. Endormi, petit mari, sur le Mississippi, vous étiez quand même un peu gonflé de m'apporter mon café. Oh, Karine Redinger, veuillez oublier ce steamer. Cette petite plaisanterie m'a fait pleurer dans mon lit, heureusement pas trop longtemps. Karine Redinger, ne venez pas voir le sacré cœur. Laissez Paris tranquille, vous êtes dangereuse dans cette ville. Un Français c'est souvent sentimental. Vous laissiez le vent montrer vos jambes en douceur, et vous m'aviez remarqué parmi les voyageurs. Karine Redinger, arrêtez de m'envoyer des fleurs. 10 jours en bateau fou, souvenir, rendez-vous, c'est fini là. From me to you, from me to you. Karine Redinger, y'a déjà quelqu'un dans mon cœur. Ce petit plaisanterie m'a fait pleurer dans mon lit. Cessons la scène musicale, comédie. Cessons la scène musicale, comédie. Cessons la scène musicale, comédie. Cessons la scène musicale, comédie.
Joke. Ici, Tourelle.
Yeah.
Robert, tout y est. Bienvenue sur Ici Touraine. Peut-être que vous êtes en vacances ou simplement à la recherche d'une idée sympa pour décompresser après le boulot. Dans tous les cas, vous faites bien d'être là parce que j'ai justement quelques suggestions qui pourraient vous plaire. Nager grandeur nature, c'est un événement gratuit et ludique organisé par le comité départemental de natation. Au programme dès aujourd'hui, dès l'après-midi, baignade de 14h à 18h, jeux aquatiques, water polo, initiation à la nage avec palme ou test pour découvrir la nage en milieu naturel. Ça se passe à Château-la-Vallière dans un cadre de nature très agréable, parfait pour une sortie en famille ou entre amis, gratuit, encadré, accessible à tous. C'est un excellent moyen de se rafraîchir, bouger et apprendre en s'amusant. Retrouvez le calendrier complet sur le site de votre radio ici ou sur leprog.com. Découvrez les rencontres graines de tandem, un cycle de 6 sorties à vélo 100% féminin qui a lieu entre avril et octobre à Tours. Chaque balade est animée, entretien du vélo, atelier découverte autour de l'agriculture durable, visite des fermes locales et toujours un moment convivial autour d'une collation gourmande à la fin. C'est gratuit pour les adhérentes, accessible à tout niveau et parfait pour allier sport, engagement et rencontres enrichissantes en Touraine. Les inscriptions se font via Graines de Tandem à Tours. En résumé, vélo, liberté, partage et nature, le tout sur deux roues et dans la bonne humeur. L'après-midi se poursuit en musique avec Ici Touraine. On écoute Lionel Richie.
Ici Touraine.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Indochine, troisième sexe sur Ici Touraine. Comment occuper les enfants? Ben, chaque jour une idée avec Lucie Miossec. Vous nous proposez aujourd'hui, Lucie, de jouer dans l'amour et la bienveillance. On adore.
Aujourd'hui, je vous propose un jeu fil rouge, c'est-à-dire un jeu qui peut durer plusieurs jours, voire même toutes les vacances. Ça s'appelle la cacahuète. Certains l'appellent aussi l'ange gardien, mais moi je trouve que cacahuète, c'est plus cool. Alors, le but, c'est d'être gentil avec les autres et de faire des petites attentions sans se faire repérer. C'est mignon, non? Et toute la famille peut jouer. La personne chouchoutée s'appelle la cacahuète et la personne qui chouchoute, c'est un gorille. Tout le monde sera à la fois la cacahuète de quelqu'un et le gorille de quelqu'un d'autre. Pour mettre en place ce jeu, vous avez besoin d'une feuille, d'un stylo et d'un ciseau. Et puis c'est tout. Il faudra bien expliquer les règles avant de savoir à qui on va devoir faire nos petites attentions et décider d'une durée de jeu. 4 jours, par exemple. On se donne le résultat à la soirée moule frites de vendredi. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez dire. On démarre. Sur votre feuille, notez les prénoms de chaque participant, puis découpez-les et faites-les piocher au sort. Chaque joueur pioche discrètement quelqu'un sans révéler son identité.
Et qu'est-ce qu'on fait si on pioche son propre prénom, Lucie ?
Eh bien, on le repose, bien sûr, et on en prend un autre. Il ne faut pas piocher son prénom. Une fois que vous avez pioché un prénom, cette personne est votre cacahuète. Vous allez devoir, autant que possible, lui faire des petites attentions sans vous faire repérer. Lui laisser un mot d'amour, lui poser le petit déjeuner au pied du lit, lui acheter ses gâteaux préférés, plier son linge, lui faire des compliments, tout ce qui peut faire du bien. Et ce qui est bien, c'est que tout en faisant ça, quelqu'un le fera aussi pour vous, dans le secret le plus total. À la fin du jeu, tout le monde est invité à dire qui, selon lui, est son gorille. Les gagnants sont ceux qui ont deviné correctement. Bien sûr, il est possible que tout le monde ait déjà deviné avant la fin du temps imparti. Dans ce cas-là, refaites un tirage au sort et relancez une partie. Bienveillance, gentillesse et mignonnerie, voilà ce que vous allez gagner. Cœur sur vous, mes petites cacahuètes.
Comment occuper les enfants qui est à retrouver sur l'application Ici. Merci Lucie. Kim Wilde pour la suite de la musique. On écoute Cambodia.
Ici Touraine.
préférée toute la journée,
c'est ici Touraine.
On s'est construit un monde qu'on a abandonné. Il suffit d'une seconde pour que tout parte en fumée. Si le cœur a raison, on a tous les deux tort. J'ai beau tenir les murs, y'a plus rien à sauver. T'as tout donné pour moi. J'avais le bonheur au bout des doigts. Tes yeux le disent pourquoi. Tu me regardes plus comme avant. Même tout l'amour du monde pourra pas nous réparer. Je sais qu'il est trop tard. On peut toujours faire semblant. Mais tout l'amour du monde pourra pas nous réparer. Je fronce mes rêves. Je casse les miroirs pour plus voir ton reflet. Je froisse mes rêves, c'est où je cache mes regrets. Je casse les miroirs pour plus voir ton reflet. T'as claqué la porte, t'avais raison, j'ai pas fait ma part. Dans ces jeux, je suis seul à perdre. J'étais pas celui que tu attendais. Hier encore, t'étais si près de moi. Tous les soirs, je me dis si seulement. Tout d'un coup, je me sens si seul au monde. Seul au monde. T'as tout donné pour moi. J'avais le bonheur au bout des doigts. Tes yeux le disent pourquoi. Tu me regardes plus comme avant. Même tout l'amour du monde pourra pas nous réparer. Je sais qu'il est trop tard. On peut toujours faire semblant.
Vous venez d'entendre Matt Pokora avec son titre Reflet sur ICI Touraine. Il est bientôt 14h, l'heure de faire le point sur l'essentiel de l'info. Mais avant ça, on continue en musique. Dans un instant, c'est Phil Collins qui prend le relais avec Against All Odds et Véronique Jeannot à suivre sur ICI Touraine.
Si vous aimez les odeurs de garrigue et marchez sur les traces des Romains, découvrez cet été le pont du Gard.
C'est là que vous aurez la meilleure photo.
Mais si vous êtes plutôt du genre, prenons de la hauteur au pic du Midi ou découvrons les vins de Bourgogne à Beaune, on a aussi un programme complet pour vous.
C'est tellement beau.
Partir, c'est aujourd'hui 50 idées de voyage partout en France ou tout près de chez vous.
Vous ne pouvez pas le rater.
Partir, le podcast ICI est disponible gratuitement sur l'appli Radio France et ICI.fr. ICI Touraine, toute la journée.
Actu locale, musique et bonne humeur.
How can I just let you walk away? Just let you leave.
Journée, c'est ici Touraine.
Moi, je n'ai pas d'amour pour
J'espère que vous passez un agréable moment à l'écoute d'Issy Touraine. Dans un instant,